OK, ça fait qu'on va continuer ce soir notre étude du survol des 66 livres de la Bible. Alors, dans nos leçons précédentes, on avait tout simplement eu une leçon ou quelques leçons sur une introduction à l'ensemble des livres des Écritures. Maintenant, on va commencer vraiment l'étude livre par livre. Et normalement, ça devrait être une ou deux, peut-être des fois trois leçons par livre. Et ça va prendre le temps que ça prendra, c'est pas plus grave que ça. Les feuilles. Allez, go, là, j'ai pas le temps de parler de ça. Là. On va commencer un peu ce soir par la Genèse. Alors, je pense qu'on avait parlé qu'on suivrait une méthode d'analyse de chacun des livres qui est sur la première page pour ceux qui ont les... Alors, on a l'arrière-plan, le but principal, on va suivre ça. Alors, l'arrière-plan du livre de la Genèse. Alors, le livre de la Genèse, ça fait partie des cinq premiers livres de la Bible qu'on appelle la Pentateuque. Pourquoi Pentateuque? Pentateuque, ça veut dire cinq. La Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible s'appellent la Pentateuque. Normalement, on appelle ça comme ça. Et ces cinq livres-là raconte les 2500 années depuis le début de la création, aller jusqu'à alors Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça raconte les 2500 années de la vie humaine sur la terre. Alors, la Pentateuque, ça comprend cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quand on regarde un peu, on met côte à côte le côté humain et le côté divin de chacun des livres. On fait une petite comparaison. Donc, la Genèse, c'est vraiment le livre qui nous montre le côté de la ruine de l'homme par le péché. Pour le côté divin, pour le même livre, la Genèse, ça nous montre la souveraineté divine, à la fois dans la création et dans l'élection. Pour l'Exode, on sait que l'Exode, c'est le livre du côté humain, c'est la rédemption par le sang et le pouvoir de l'Esprit. Côté divin, c'est la puissance divine dans la rédemption et l'émancipation. Lévitique, côté humain, c'est vraiment la communion avec Dieu sur la base de l'expiation. Côté divin, la sainteté divine qui comprend la séparation et la sanctification. Dans le livre des Nombres, on parle de la direction durant le pèlerinage par la volonté de Dieu. Et le côté divin, on parle de la bonté, de la sévérité divine qui juge et qui se soucie des hommes. Deutéronome, on a vraiment le côté humain, l'instruction vers la destination prédéterminée par la fidélité de Dieu. Côté divin, la fidélité divine en discipline et en destination. C'est intéressant de regarder un plan comme ça d'ensemble de ce que contient les cinq premiers livres, à la fois sur le côté des hommes, côté humain qu'on a, qui sont dans le tableau, et à la fois sur la perspective divine. Donc, c'est deux perspectives complètement différentes, mais dans le même livre, ça parle des deux choses. Alors, bien entendu, le livre de la Genèse, l'auteur, selon les spécialistes, beaucoup s'entendent pour dire que c'est Moïse. Mais pour chacun des livres, la Bible, si vous lisez des introductions de quelques livres que ce soit, il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas Moïse, ou ben non, d'après quel livre ils vont dire que, autrement dit, il y en a qui ont la démangeaison des choses nouvelles. Ils veulent toujours avoir présenté quelque chose que les autres n'ont pas vu. Moi, je suis pas très, j'ai aucune démangeaison pour les choses nouvelles. La date de la composition du livre, on parle que Moïse aurait écrit la Genèse et le reste de la Pentateuque entre 1446 avant Jésus-Christ, donc la date de la possible date de l'exode d'Égypte, et 1406 avant Jésus-Christ, la date de la mort de Moïse. Donc, 1446 à 1406, ça fait sur une période de 40 ans. Donc, Moïse aurait écrit le livre de la Pentateuque sur une période de 40 ans. Quand on regarde les cinq premiers livres de la Bible, il y a beaucoup de stock là-dedans. Là. Il doit avoir écrit ça, mais c'était sous la supervision de Dieu, puis c'était inspiré aussi par le Seigneur. Le livre est inspiré. Donc, le cadre du livre de la Genèse, c'est au chapitre 2.
12.
chapitre 12, excusez, Dieu appelle Abraham à quitter sa patrie de Ur, en Chaldée, pour aller en Canaan. Et Canaan, à cette époque-là, était environné de puissants royaumes. La Mésopotamie, l'Assyrie, la Babylone au nord et l'Égypte au sud. Le livre de la Genèse se termine alors que les descendants d'Abraham ne vivent plus en Canaan, mais dans le nord de l'Égypte, au pays de Gozan. Le but principal. Alors, ce que j'ai dit dans la page première, on avait dit qu'on suivrait toujours cet ordre-là pour l'analyse de quelques livres que ce soit. On va toujours suivre cet ordre-là. Le but principal de la Genèse. Donc, le but principal de la Genèse nous parle des commencements. Si on parle de Genèse, on va souvent retenir, si on avait le résumé par un mot, on dirait le livre des commencements. Alors, son nom vient de l'hébreu qui veut dire « Bereshit ». Si vous prenez, si vous allez sur Internet, puis vous voulez, disons, écouter le livre de la Genèse en hébreu, le premier mot que vous allez entendre, c'est « Bereshit ». C'est le mot qui veut dire « commencement », qui est le premier livre du mot et qui signifie « au commencement ». Alors, la Bible le commence par ça, « au commencement, Dieu créa ». Alors, en hébreu, c'est le mot « Bereshit », c'est pour ça que ça s'appelle comme ça dans le livre de la Genèse. La chronologie de la Genèse s'étend des débuts de la création jusqu'à la période où les descendants d'Égypte, les descendants d'Abraham fuirent vers l'Égypte pour échapper à une famine vers 1800 avant Jésus-Christ. Le livre de la Genèse nous raconte le commencement de la création, le commencement des problèmes de l'homme et le commencement de la solution à ces problèmes. Alors, quand on regarde ça comme fou, là, ça, quand je vous mets un plan comme ça, je vous conseille très fortement que lorsque vous commencez à étudier un livre, là c'est la Genèse, mais n'importe quel livre, à chacune des leçons, il va toujours y avoir un plan. Le plan, ça nous parle de l'ensemble des idées qu'il y a dans ce livre-là, qui ont été étudiées par des spécialistes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas très long à se souvenir. Puis dans le fond, si on se souvient des 8 points qui sont là, l'histoire primitive et l'histoire patriarcale, autrement dit, on se souvient de la Genèse pas mal au complet. C'est intéressant de voir l'ensemble du plan d'un livre. Alors ici, on a le plan du livre de la Genèse. Le thème, c'est vraiment la souveraineté de Dieu dans 3 domaines. Dieu est souverain dans la création. Il a créé et Dieu dit et les choses apparurent. Donc, il est souverain dans le domaine de la création. Il est souverain dans l'histoire, tout ce qui se passe dans le livre de la Genèse. On l'a, par exemple, avec Joseph et plein d'autres choses, où on nous montre que Dieu dirige les événements pour les siens et pour contrôler les nations autour d'Israël aussi. Et c'est la souveraineté de Dieu dans la rédemption. Quand il demande à Abraham, sors du pays dur, c'est comme vraiment l'image quand il nous appelle, nous, à sortir du péché. Alors, c'est vraiment des images. Alors, c'est vraiment le thème de la Genèse, c'est la souveraineté de Dieu dans la création, dans l'histoire et aussi dans la rédemption. Quand vous regardez chapitre 1 à 11 dans les Écritures de Genèse, et à partir du chapitre 12 à 50, il y a comme deux choses. Si vous vous rappelez de deux choses, autrement dit, 4 événements exceptionnels qui ont eu lieu dans les 11 premiers chapitres. Retenez ça. 1 à 11, il y a 4 événements, et 12 à 50, il y a 4 personnages. Si vous retenez ça, vous avez toute la Genèse dans la tête. Très important de retenir ça. Alors, autrement dit, les 4 événements exceptionnels qu'on parle dans l'histoire primitive de l'homme, c'est à partir du début de la création, aller jusqu'à la tour de Babel. On se rend jusqu'au chapitre 11. Donc, il y a 4 événements importants qui se produisent entre le chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 11, 4 événements importants. D'abord, la création. Dieu crée le monde à partir du néant. Donc, la souveraineté de Dieu sur le monde physique. Chapitre 1 et 2. Ensuite, vous avez la chute, vers le chapitre 3, vous avez la chute de l'homme dans le péché à cause de Satan qui tente Ève et Adam. Donc, la souveraineté de Dieu sur le monde moral. Ensuite, vous avez le déluge au chapitre 6. La souveraineté de Dieu sur la vie humaine. Imaginez-vous, il y avait déjà, d'après les commentateurs, plusieurs millions de personnes déjà qui vivaient sur la terre. Et le Seigneur dit que le mal était déjà à son comble, déjà après peu d'années après la création. Il a décidé, donc, souverain, ça veut dire que c'est lui qui est le maître. Tout ce monde-là, excepté huit, il a dit, je balais tout ça. Donc, il est souverain, c'est lui qui est le patron. La quatrième, c'est vraiment la souveraineté de Dieu sur la race humaine, dans le chapitre 11, là où on nous raconte la tour de Babel, où les hommes s'étaient mis ensemble pour bâtir une tour qui voulait aller jusqu'au ciel. Et quand on lit les commentaires, la tour, elle avait pour but d'établir des contacts avec Satan. Donc, c'était déjà le satanisme était déjà commencé. Et la tour de Babel, le Seigneur, c'est qui a envoyé son jugement pour détruire tout ça et pour dire aux hommes, la confusion des langues, vous ne pourrez plus continuer à construire parce que je vais... Donc, les quatre événements importants, c'est pas difficile à retenir. La création, la chute, le déluge, puis la tour de Babel. T'as les 11 premiers chapitres, l'histoire qu'on appelle l'histoire primitive. Ensuite, la deuxième partie de Genèse, c'est ce qu'on appelle l'histoire patriarcale. Pourquoi? Parce que dans cette partie-là de la Genèse, à partir du chapitre 12 aller jusqu'au chapitre 50, on a quatre personnages principaux. On vient de finir l'Apocalypse, pas l'Apocalypse, mais Genèse, on se souvient très bien de ça. Donc, il y a quatre histoires exceptionnelles. On a l'histoire d'Abraham, qui est un peu une illustration de la souveraineté de Dieu dans l'élection. Il prend une personne d'un pays, il le fait venir, c'est lui qui le sort. Sors du pays dur et va, ce que je te dis. C'est vraiment une image que Dieu est souverain dans l'élection. Après, ensuite, on a Isaac, qui est son fils. La souveraineté de Dieu dans l'élection, encore une fois, par la naissance surnaturelle du chapitre 21 au chapitre 26. On a ensuite, encore une fois, la souveraineté de Dieu dans l'élection avec Jacob. On sait que, normalement, Jacob, il avait pas le droit d'aînesse, et on se souvient toute cette histoire-là. Donc, le surnaturel de Dieu, à partir du chapitre 27 jusqu'au chapitre 36, et l'histoire de Joseph, qui est la dernière partie du qu'on vient juste de finir d'étudier. Donc, le contrôle surnaturel de Dieu, à partir du chapitre 37, aller jusqu'au chapitre 50. Le Seigneur nous montre que, malgré les apparences, Joseph, Dieu voyait au déroulement de sa vie, il contrôlait toute chose pour son bien, même si lui, au moment où ça arrivait, il avait vraiment pas l'air à penser que c'était pour son bien. C'est la même chose. Le livre de la Genèse, c'est comme un peu notre vie à nous. Des fois, le Seigneur nous fait vivre des choses. Sub coup, on ne perçoit pas que c'est quelque chose pour notre bien. Mais pourtant, le Seigneur nous dit que toute chose qui permet, qui nous arrive, c'est pour notre plus grand bien. Et on a vraiment la bon exemple avec... Donc, le plan du livre, c'est intéressant de se souvenir de ces choses-là, parce que on a... dans le numéro 4 et 5, donc on a les thèmes majeurs et les personnages clés. Donc, si vous prenez le livre de la Genèse et vous le regardez, il y a des thèmes majeurs, donc autrement dit, et des personnages clés. On les mentionnera pas toutes les dons qui sont mentionnés, mais clés, quand on dit clés, c'est les personnages qui sont les plus importants pour le Seigneur. Donc, la section de la Genèse, chapitre 1, aller à 2, 3, on a vraiment la création, la souveraineté, les humains à l'image de Dieu et la responsabilité humaine comme thème. Ensuite, les personnes, on a Dieu et les êtres humains. Ensuite, quand on parle de l'origine des nations, de 2, 4 à 11, 9, l'homme qui a un échec, qui meurt, commence à avoir la mort introduite dans la vie de l'homme, la punition du péché, la promesse et la grâce. Et les personnes de 2 aller jusqu'à 11, les principaux personnes, c'est Adam et Ève, le serpent, Caïn et Abel et Noé. Et à partir de 11 aller jusqu'à la fin, 50, les thèmes, l'alliance. S'il y a quelque chose d'important dans la Bible, et éventuellement, quand on va arriver à Confession de foi 1689, on va développer ça. C'est extrêmement important de comprendre, c'est le lien unificateur de la Bible. Si on comprend bien l'Alliance, on comprend pas mal bien la Bible en même temps. Alors, le thème qu'il va y avoir dans la section à partir du chapitre 11, aller jusqu'au chapitre 50, le plan de la rédemption de Dieu, le peuple de Dieu qui commence, qu'on va appeler Israël, l'œuvre de Dieu à travers d'une famille, donc Dieu commence avec Abraham, après ça Isaac, ça Jacob, et toute l'histoire, donc comment Dieu a travaillé pour amener le peuple d'Israël, et l'œuvre de Dieu aussi à travers les nations. Là, quand on regarde les personnages de ces sections-là, qu'est-ce qu'on a? Abraham, Sarah, Agar, Lot, Isaac et Rebecca, Jacob, Rachel, Léa, Bila et Zilba, les 12 fils de Jacob, Joseph, Tamar et Potiphar. Ça, les principaux personnages. Quand on regarde un livre, si vous lisez, vous habituez à, quand vous commencez à étudier un nouveau livre ou à lire un nouveau livre, vous prenez vos notes comme ça, sur le livre, puis vous les lisez tranquillement avant de commencer. Vous allez voir que ça va vous aider énormément. Surtout quand vous allez arriver dans des livres qu'on connaît un peu moins, ça va vous aider énormément. Ensuite, le sixième point, c'est qu'on regarde un peu quelques versets clés du livre de la Genèse. Bien sûr, quand on dit des versets clés, c'est que chacun des livres, il y a certains versets qu'on peut considérer comme étant les versets peut-être les plus connus ou les plus significatifs par rapport à ce livre-là en particulier. Bien entendu, Genèse 1:1, c'est vraiment très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 3:15, c'est ce qu'on appelle le protévangile. Autrement dit, quand l'homme est tombé, c'est là que Dieu a dit qu'il enverrait un Messie, mais sous forme un peu symbolique, quand il dit Genèse 3:15, il parle au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Bien sûr, c'est du langage symbolique. Il est en train de parler de Satan, le combat qu'il va y avoir entre Satan et Jésus-Christ. Et à partir du Genèse 12, on a encore des versets clés, parce qu'on parle quand Dieu demande à Abraham de sortir du pays dur, puis d'aller dans le pays où il va lui montrer. Et ça dit, Genèse 12, verset 1-2, « L'Éternel parla à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Voyez-vous, ça fait des milliers d'années, on parle encore du nom d'Abraham aujourd'hui, en 2019, près de 2020. Quand il a dit qu'il rendrait ton nom grand, moi je suis certain que dans 10 ans, après que je vais être décédé, le monde ne passera même plus à moi. Mais le Seigneur a fait du nom d'Abraham, il a fait... Il dit « Ton nom sera grand », la preuve, c'est que son nom est tellement grand qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Genèse 50, on a vraiment un verset clé qui nous rappelle que Dieu contrôle les événements de mal qui sont dans nos vies, dans le but d'en faire sortir du bien. C'est une manière de travailler de Dieu qui est extraordinaire, on apprend ça dans le livre de la Genèse. Il dit, Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. » C'est Joseph qui parlait, là. Il dit, « Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Que c'est beau. On voit la manière de travailler. Le livre de Genèse, c'est un livre extraordinaire. Les septième point qu'on regarde, c'est les leçons pour le peuple de Dieu. Quand vous regardez comment je l'ai divisé, tu as des leçons pour l'époque. Quand le livre était écrit, il parlait aux gens pour l'époque, mais ça nous parle encore aujourd'hui. Alors, pour l'époque, dans le livre de la Genèse, Dieu se révèle comme le Créateur et le Roi qui aime sa création. Il planifie de racheter l'homme à travers une personne et une famille, de manière à ce que toutes les nations et la création elle-même sera bénie. Dieu choisit Abraham et ses descendants pour recevoir sa bénédiction et être une bénédiction pour les autres êtres humains. Même si chaque personne, comme Isaac, Rebecca, Judas et même Joseph, eurent leur manquement, Dieu les utilisa quand même pour accomplir ses promesses. Ça ressemble un petit peu à nous autres, hein? Même si on est plein de manquements, le Seigneur nous utilise quand même, des fois, pour amener le salut dans la vie d'une personne. Alors, les manières de travailler de Dieu n'ont pas changé. Et les leçons pour le peuple de Dieu, pour l'époque, c'était ça. Et pour aujourd'hui, c'est Dieu continue d'œuvrer pour racheter sa création. De la même manière qu'il appela un peuple à cette époque, il poursuit d'appeler ses élus aujourd'hui. Donc, de la même manière qu'il a dit à Abraham, « Sors de ce pays, va dans le pays, je te montrerai », il fait pareil pour nous. On est dans le monde, on est esclave du péché, esclave de Satan, et le Seigneur nous sort de là et il nous amène dans le chemin qui s'en va vers le paradis, avec nos péchés pardonnés. Quand on regarde dans Hébreux 11, au verset 8, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ici, quand on parle de vocation dans la Bible, c'est souvent vocation dans le sens de l'appel. On parle pas de... Tu sais, des fois, on disait, oh, il y a la vocation. Vocation, ça veut dire la voix qui appelle. Donc, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Lui, ça prend la foi, là. Quand quelqu'un dit quelque chose, puis tu sais pas où tu t'en vas. Nous, au moins, quand Dieu nous fait sortir, il nous dit où est-ce qu'on s'en va. On le sait où est-ce qu'on s'en va. Comme à l'époque de l'Ancien Testament, la foi est encore nécessaire pour se laisser conduire vers l'endroit où Dieu veut que nous allions. Le huitième point, c'est de regarder... Ça, il faut vraiment s'habituer à faire ça. Quand on étudie un livre, si on ne regarde pas dans le livre qu'est-ce qui parle de Christ, c'est comme si on manquait notre coup. Parce que toutes les Écritures à travers l'Ancien Testament nous parlent du Seigneur d'une façon ou d'une autre, du Messie à venir. Ils nous parlent par des images, par des symboles, par toutes sortes de choses. On a vraiment intérêt, quand on lit la Bible, à questionner le texte et à essayer de voir qu'est-ce que dans ce texte-là me fait voir sur Christ. Parce que toute la Bible parle de Christ. Quand on s'est rentré ça dans le coco d'aplomb, là, je vous dis qu'on voit plus la Bible de la même façon, puis on ne voit plus non plus les histoires de la même façon, parce qu'on voit que ça parle du Seigneur d'une façon ou d'une autre, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la place occupée par Christ dans la Genèse est encore ce qui nous rend le livre le plus précieux. Jésus lui-même nous dit que Moïse a écrit de lui, et que si nous ne croyons pas Moïse, nous ne pouvons pas croire à ses paroles. On irait les lire, les passages, Luc 24, versets 25 à 27, verset 44, Jean 5, 46, 47, Jean 8, 56. Autrement dit, le Seigneur lui-même dit que Moïse a écrit de lui. C'est dans le livre de la Genèse et dans les quatre autres livres de la Pentateuque, quand on dit « Moïse a écrit de moi hein. ». Et dans le récit de la création, on voit une allusion à la Trinité dans le pluriel utilisé à propos de Dieu. Ça, c'est dans la fameuse Elohim. Quand on lit au début de la Genèse, dans l'hébreu, il y a le fameux Elohim. Et dans l'hébreu, quand vous avez une termination de mot qui finit par « im »,« im », ça veut dire pluriel. Et quand on dit Elohim, on pourrait traduire les dieux. Mais comme on sait qu'il n'y a rien qu'un, on dit Dieu. Mais c'est comme une allusion au Dieu trinitaire. Donc, pourquoi on utiliserait un pluriel pour parler d'une personne au singulier? C'est ça la question, là. Alors, Adam était la figure de celui qui devait venir. Ça, on l'a dans Romains 5 puis dans Corinthiens 15, où on parle du premier Adam, celui qui est le premier homme, et Jésus qui est devenu le second Adam. Donc, la promesse de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, dans Genèse 3.15, est appelée le protévangile. Ça, habituez-vous que des beaux petits mots comme ça, ça votre culture chrétienne va devenir... quand vous envoyez ça dans un salon, un soir de Noël, là, savez-vous ce que c'est le protévangile? Ça paraît bien. Donc, le protévangile, c'est la première annonce de rédemption dans les Écritures, par la souffrance de l'incarnation. Abel est déclaré juste par sa foi en un sacrifice sanglant, plus excellent que celui de Caïn, qu'on voit dans Hébreux 11, verset 4. Voyez-vous, quand on parle d'Abel, on est dans les débuts, là. Puis encore là, c'est de s'habituer à voir pourquoi que Dieu a approuvé son sacrifice, qui était un sacrifice sanglant, et l'autre, il offrait le fruit de la terre. Quand on dit que ça parle de Christ partout, là, des fois, faut questionner pourquoi il nous mentionne ça. Pourquoi? Quand on se pose des pourquoi, on trouve Christ, comme on pourrait dire, à tous les coins de rue dans les Écritures. L'eau du déluge était une figure du baptême, et l'arche, croyons-nous, une image du salut en Christ qui nous porte au travers le jugement, étant enseveli et ressuscité avec lui. Alors, on a des versets. Ceux qui ont les feuilles, et ceux qui les ont pas, qui entendraient sur Internet et qui sont intéressés à aller voir les versets, ils ont juste à télécharger les notes de sermon et prendre le temps d'aller voir les versets, parce que souvent, ça illustre beaucoup qu'est-ce qu'on veut dire. Melchisédek semble être comme une apparition à Abraham, de notre souverain sacrificateur éternel et parfait. Puis quand je vous disais des fois que c'est très difficile de comprendre un livre du Nouveau Testament si on n'a pas vraiment lu le Nouveau. Quand on arrive dans Hébreux et qu'on parle que Jésus a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, si on n'a pas aucune idée c'est qui Melchisédek, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit zéro, on comprend rien. On passe là-dessus comme de l'eau sur le dos d'un canard. Alors, c'est important de connaître toutes nos Écritures à partir du premier livre, aller jusqu'au dernier, parce que tout se tient. Et plus on connaît notre Bible, plus on apprécie le Nouveau Testament, on va le comprendre d'autant mieux qu'on va connaître notre Ancien Testament. Puis moi, je trouve ça pathétique, pour utiliser un mot là, faible, pathétique que des chrétiens qui ça fait 25 puis 30 ans qui sont chrétiens puis qui n'ont pas encore lu leur Bible une fois dans 25 ans. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'assez tombé sur le dos. C'est comme, comment veux-tu comprendre la Bible? Les gens disent, moi, la Bible ne comprend rien. Ben oui, mais tu ne comprends rien parce que tu ne l'étudies pas, parce que tu ne la lis pas. Alors, on a l'exemple de Melchisédek. L'ange de l'Éternel aussi, qui apparaît à Abraham, tu sais, à un moment donné, Abraham est dans sa tente, il voit trois étrangers arriver. On avait vu que c'était une théophanie, Christ qui est venu. Quand on dit qu'on voit Christ partout, là, c'est parce qu'il est partout. Alors, l'ange de l'Éternel est également une théophanie, une manifestation de celui qui seul rend visible la présence de Dieu. Dans Genèse 16, alors on va se rendre jusqu'à la fin de... Du point 8, là, puis on va arrêter là. Le sacrifice d'Isaac, le fils unique si longtemps attendu à Morija, présente des analogies extraordinaires avec celui du fils unique, presque au même endroit. Ça, c'est vraiment une chose extraordinaire, l'affaire du Morija, et un petit peu plus loin, David... il fait un sacrifice à quelque part quand il a voulu compter son peuple, puis en le comptant, le peuple, Dieu était fâché après lui. L'endroit où il y a eu le sacrifice, là, c'était la même place, Morija, cet endroit-là, et l'endroit où l'emplacement du temple. Là. Quand on dit que ça parle de Christ, là, toutes ces choses-là nous parlent merveilleusement du Christ. Quand on parle, on vient de le voir, là, ce qu'on appelle le Shiloh dans Genèse 50. Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est le souverain qui sortira un jour de la tribu de Juda. C'est ainsi que la lignée du Messie se précise. Il naîtra de notre race. fils de, du peuple issu d'Abraham, Genèse 22, de la tribu de Judas, Genèse 49, de la famille de David, 2 Samuel 7 et de Marie. Quand on regarde tout là, ça se tient tout. On va arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer lors de notre prochaine leçon.